Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le communisme a été une tentative de résoudre les problèmes de la société en niant Dieu et en opprimant l'homme. Amis auditeurs, bonjour. Ce constat fait par le géant de la sainteté qui est Saint Jean-Paul II est sans appel. Jean-Paul II fut un adversaire résolu du communisme, non par haine politique, mais par amour de la vérité et de la liberté. Sa réponse au communisme a été profondément évangélique. Résistance spirituelle, appel à la conversion et espérance en la dignité humaine restaurée par le Christ. Ce combat contre des pouvoirs communistes s'est également déroulé en Asie, et notamment en Birmanie. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Je reçois aujourd'hui un ancien résistant qui a lutté dans les guérillas anticommunistes contre les régimes marxistes d'Asie du Sud-Est. Bonjour Aymeric Vallois.
Bonjour Joseph.
Aymeric Vallois, vous livrez votre témoignage sur cet engagement dans le livre suivant « Action clandestine, la lutte anticommuniste en Asie du Sud-Est ». Avant de nous partager votre témoignage, Aymeric Vallois, j'aimerais que vous puissiez recontextualiser la présence catholique et la présence française en Orient Extrême.
Bien, cette présence française, elle s'exprime déjà dès le XVIIe siècle, avec la présence et l'envoi de missionnaires qui vont évangéliser certaines parties de toute l'Asie, à commencer par la Chine évidemment, mais ce sera l'Indochine, ce sera évidemment le Siam, ce sera l'Asie, la Corée du Sud aussi. Et c'est une présence qui va être très significative pour les échanges et pour une attache à la vie qui va être soufflée évidemment à des populations qui étaient sous des dominations différentes, on va dire, différentes de celles évidemment de nos valeurs. Et nous aurons donc des très forts liens avec ces populations qui nous suivront jusque dans le XXe siècle et qui représentent à l'heure actuelle aussi une croissance aussi assez significative. Parce que même si en effet l'Occident s'était replié dans les années 70, après la chute du Vietnam et du Cambodge, si aussi les communistes étaient arrivés en Chine. Donc, il y a à l'heure actuelle un regain d'attention et d'amour pour le Christ en Asie, avec une croissance qui est très significative, qui est plus forte que celle de l'Europe et des Amériques, inférieure à celle de l'Afrique, mais qui représente quand même 150 millions de personnes. Et donc, un regard attentionné doit être toujours porté sur ces régions-là.
Voilà. On va revenir avec vous, Aymeric Vallois, sur votre témoignage. Dans mon introduction, je disais que vous étiez donc parti à l'autre bout du monde, vous qui êtes français. Vous êtes parti en Birmanie. Pourquoi avoir décidé de partir en Birmanie pour combattre le communisme ?
Alors, c'est déjà à la fois un souhait exprimé assez jeune, suite à une découverte malheureuse, évidemment, du communisme au Cambodge. C'est donc une tragédie un peu familiale qui va me faire prendre la mesure de ce qu'est le communisme. Et c'est donc un souhait aussi de le combattre sous toutes ses formes dans le monde qui m'a prédispositionné à être volontaire. Et ce volontariat, il va s'exprimer évidemment dans la chose militaire pour le combattre sur le terrain. Il se trouve que la Thaïlande est entourée, à partir des années 75, il est entouré par des régimes socialistes ou communistes, Et c'est le seul bastion de liberté qui existe en Asie du Sud-Est. Et donc, nous avions déjà une présence qui restait sur le Cambodge. C'était une présence assez faible, mais elle avait le mérite d'exister. Et on a commencé évidemment à porter nos regards un petit peu sur toutes les autres pays qui étaient autour, donc que ce soit le Laos ou la Birmanie, et on a eu des demandes qui sont venues de la Birmanie où ils avaient le souhait d'avoir un soutien. Et donc nous étions volontaires, voilà, pour les aider à s'opposer à des régimes socialistes et militaires. C'était le cas du régime du général Nguyen en Birmanie.
Vous arrivez donc en Birmanie, en plein milieu de la jungle birmane. Comment se passe cette acclimatation dans un pays qui n'est donc pas le vôtre, avec une culture et avec une population qui n'est pas la vôtre, puisque vous êtes au milieu du peuple Karen ?
Alors, l'intégration, elle s'est faite évidemment de façon un petit peu... c'est une intégration qui se passe à la fois très bien, mais en effet qui est folklorique. Pourquoi folklorique ? Ben tout simplement parce que on est nourri des écrits de nos anciens, et donc on a toute une culture évidemment de l'Indochine, on a toute une culture des actions qui ont conduit évidemment à la triste défaite de Tien Bien Phu, mais on est tous nourris de ça, et tous mes amis et moi-même, nous sommes tous déjà forgés pour les combats en milieu tropical, et donc ça s'est assez bien passé. Il y avait évidemment des petites choses qui sont toujours gênantes, que ce soit les sangsues ou la malaria, les gènes, on va dire, que l'on connaissait de façon livresque, mais bon, qu'on a appris à connaître, voilà.
Quels étaient vos liens avec la France, Aymeric Vallois ? Dans votre livre, vous parlez du renseignement français, de la SDEC, qui est l'ancêtre de la DGSE actuelle. Est-ce que vous aviez des ordres de dirigeants français ?
Alors, les choses ne sont pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que il existait, dans les années 70, évidemment, des gens qui avaient encore un œil sur cette partie-là du monde, et qui avaient reçu des instructions de continuer à s'occuper de ces régions-là. Et il n'y a jamais eu de contre-ordre d'arrêter. Et les choses ont tout simplement continué comme elles étaient. Et même si les moyens financiers n'étaient plus là, un ensemble de donateurs ou de structures associatives ont permis d'entretenir une présence sur place et d'avoir un certain nombre de personnalités à notre écoute.
J'aimerais rebondir sur ce que vous nous disiez, où vous êtes donc intégré au peuple Karen. Comment décririez-vous leur ethnie ? Quelles sont leurs particularités ?
Alors, c'est une communauté montagnarde qui a une singularité par rapport aux Birmans, c'est qu'ils sont beaucoup, du moins, ils sont certains d'entre eux, et une bonne partie d'entre eux sont chrétiens. C'est entre autres des missions étrangères qui avaient évangélisé les Karen. Lorsqu'ils se sont heurtés évidemment un bouddhisme un peu virulent, ils se sont rendus compte que les sociétés animistes dans les montagnes étaient plus attentives à leur prêche. Donc les Karen sont une partie de leur société, du moins, et une partie de leur société est chrétienne. Alors ils sont extrêmement démarchés évidemment par les évangélistes protestants. On pourrait presque dire que au niveau ethnique, c'est les premiers chrétiens de Birmanie, presque. Voilà.
On va approfondir, décrivez-nous un petit peu l'ambiance, Aymeric Vallois. Comment forme-t-on également des soldats Karen, avec peut-être une barrière de la langue, pour ce type d'opération militaire, ce type de guérilla contre le pouvoir communiste ?
Alors, toutes les formes d'action militaire passent évidemment préalablement par une formation commune. Et cette formation commune, elle va jouer principalement sur la dynamique de groupe et l'amitié entre les hommes, c'est-à-dire qu'avec son binôme. On va revenir à des choses très basiques, mais c'est l'attachement finalement au groupe, l'attachement à la section, l'attachement à la compagnie, à l'unité, qui va permettre d'avoir une action volontaire et efficace. Cette dynamique-là, dans l'armée française, on la maîtrise très bien. Nous avons toutes les techniques pédagogiques qui ont été léguées depuis des siècles et des siècles et des siècles, et la prise en compte d'une société paysanne ou d'une société d'ouvriers ou d'une société protéiforme qui veut défendre son sol. En France, on a le savoir-faire. On sait former des unités qui vont avoir une destinée commune. Et c'est cette capacité finalement à transmettre, évidemment, et cette capacité à se faire comprendre, et cette facilité à se faire obéir, qui nous a donné évidemment un statut très particulier chez les Karen. Hein. C'est des moments où on montrait l'exemple de ce qu'il fallait faire et qu'on allait au feu avec eux, il est clair que on appartenait automatiquement et de facto à la caste qui commandait.
Voilà. Juste après la pause, on revient avec vous sur ce feu que vous évoquez, sur les actions concrètes que vous avez menées. Amis auditeurs, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite, juste après ça.
Aux pauvres, t'es mon premier sacrifice. Jusqu'à la mort, tu me suivras partout. Car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout. Goûter mon teint, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement, moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Sans en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. Si tu guerrier, j'ai les armes puissantes. Si je l'imite et lutte vaillamment, vierge grâce ravissante, je veux aussi chanter en combattant. En souriant, je brave la mitraille et dans tes bras, ô mon époux divin. En chantant, je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main.
Venez d'écouter « Mes armes », un titre de Natacha Pierre qui reprend les paroles et le poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous nous retrouvons, Aymeric Valois, l'auteur d'Action clandestine, la lutte anticommuniste en Asie du Sud-Est. Un témoignage sur vous, Aymeric Valois, sur ce que vous avez vécu. Eh bien, parlons-en de ce que vous avez vécu. Vous avez connu le sifflement des balles. Vous êtes monté au front avec les Karen. Racontez-nous une opération. Comment est-ce que ça se passe concrètement de se battre contre le communisme ?
Alors, se battre contre le communisme, il y a plusieurs formes de battre le communisme. Bon, enfin, dans le cas particulier, évidemment, des opérations de guérilla, j'avais en charge l'unité de reconnaissance, et donc il s'agissait de faire des dossiers d'objectifs sur les positions qui nous entouraient. Et donc, j'avais formé un certain nombre de personnes, aussi bien à faire des relevés de terrain permettant une avancée sur les postes le plus silencieusement possible, en déminant à l'avance et en ouvrant tout l'ensemble des défenses. Pourquoi ? Parce qu'on avait un mode d'action qui était un peu particulier. On cherchait à chaque fois à faire des infiltrations le plus silencieusement possible, évidemment, dans les positions ennemies, et lorsqu'on évidemment on se faisait repérer, on faisait une boule de feu avec nos appuis qui tétanisait évidemment la position.
Une boule de feu, pour nos auditeurs, Aymeric Valois, qu'est-ce que c'est ?
Alors on tire de toutes nos armes possibles et on fait le plus de bruit possible de façon un peu péjorative, on va dire. Voilà, on fait une boule de feu en utilisant toutes nos armes possibles, en tirant sur les positions, sur les objectifs qui sont devant nous, et pour faire en sorte tout simplement que ceux qui sont en face se baissent la tête, hein, voilà, et nous on progresse. Donc c'est en résumé, ça semble assez simple, mais il faut s'infiltrer dans les positions et avoir des reports de tir qui évitent évidemment que nos appuis-feux nous tombent dessus. Et c'est donc, il faut planifier évidemment la pénétrante dans des positions ou dans des villes. Et donc après, évidemment, on a tout ce qui va être les lignes de repli, les points de recueil, qui vont permettre de ne pas rester très longtemps aussi sur une position, parce qu'évidemment, qui dit une position dit aussi des renforts qui arrivent. Donc ça nous est arrivé aussi d'être poursuivis, hein, mais on les attendait aussi avec des embuscades. Voilà, donc on a eu aussi une fois où ils ont utilisé des avions, mais ça a été absolument inefficace. On s'était déjà replié dans la forêt, donc on a eu, sur 300 gars, on a eu un blessé, c'est tout. Donc mais en règle générale, toutes nos opérations sont assez bien passées. Bon, il y en a une pour ma part qui n'a pas marché, parce que bon, on avait été repéré avant, il y avait tout un ensemble de facteurs qui avaient fait que la décision d'aller au feu avait été un peu forcée par les autorités locales, en règle générale, quand c'est assez bien planifié, à chaque fois on bénéficie d'un effet de surprise qui permet d'être dans les positions avant qu'il y ait une réaction.
L'objectif, c'est quoi ? C'est une occupation territoriale ? C'est de couper des réseaux de communication ?
Alors oui, c'est évidemment une occupation de terrain, mais aussi c'est faire main basse éventuellement sur les ravitaillements, sur les lignes de repli adversaire. Et plus on avance, plus on fait des infiltrations lointaines, moins c'est défendu. Celles qui sont au plus proche sont toujours évidemment plus difficiles à attaquer, parce qu'évidemment les gens sont en alerte, mais plus on s'infiltre loin, plus c'est facile. Les défenses sont lâches, ce sont des cibles molles. Évidemment, les gens ne pensent pas qu'on puisse faire des infiltrations de 50-100 km à l'intérieur. Voilà.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de finalement mettre un terme à cette mission ? Vous êtes retourné en France. Est-ce qu'il y a un événement qui a provoqué cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit que finalement, votre place n'était plus en Birmanie, Aymeric Valois ?
Alors, il y a une chose qui semble assez évidente, c'est la chute du communisme, hein, 89, 91, mais 89, l'URSS s'effondre, commence à tomber, mais la dynamique politique n'est plus le modèle. Et ils ne sont plus à même de pouvoir entraîner des populations sur ces principes-là. Et ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est évidemment la mort de certains de nos amis et de nos camarades qui ne sont plus là. Et donc, au final, le bilan de nos actions a coûté à des familles, a coûté à des gens qui nous étaient proches. Et donc, quand on commence à mesurer finalement le poids de le poids des choses dans le sens de la vie ou dans le sens du don de soi, on commence aussi à avoir un peu des doutes. D'autant que autant les populations qui défendaient pour leur un droit à s'exprimer, un droit d'exister, une fois que l'idéologie politique disparaissait, est arrivé évidemment un conflit ethnique. C'était donc des conflits qui étaient en substrat, qui étaient là depuis bien plus longtemps, qui reprennent le dessus. Et là, évidemment, en tant que Français, on n'a pas notre position, nous, dans des conflits ethniques. Il n'y a pas de sens. Face à une dictature communiste, oui, c'était légitime d'aller soutenir des populations. Maintenant, commencer à perdre des hommes pour des conflits ethniques, y a pas.
Aujourd'hui, Émeric Valois, quel regard portez-vous sur ce pays dramatiquement touché par la guerre civile et par le tremblement de terre, la Birmanie ? Est-ce que vous avez encore des contacts, des relations là-bas ?
Alors oui, évidemment, j'ai toujours des relations. On a fait à l'époque une passation de commandement, ce sont actuellement les chefs d'état-major hein, qui sont nos anciens lieutenants. Hein. Donc on est toujours en relation. Mais ce qui est à la fois intéressant de voir, c'est qu'une partie de la population birmane déjà à partir de 88, en effet, c'est une partie d'entre eux avait déjà fui le régime militaire. Mais là, c'est bien plus important. On a toute une fraction de la société qui n'en peut plus d'être sous une férule militaire et donc qui est en rébellion militaire ouverte. Hein, voilà. Et à l'intérieur même de la Birmanie. Donc l'ensemble des ethnies, que ce soit chez les Arakan, chez les Kachin, chez les Tchad, ou chez les Karenni, ou chez les Mon, ou les Chin, c'était des pressions ethniques sur les frontières qui étaient toujours réelles, mais à l'intérieur même de la Birmanie, c'était pas le cas. À l'heure actuelle, il y a vraiment une dynamique de rébellion contre le modèle militaire et oligarchique birman. Donc, alors, ils ont toujours un soutien quand même de certains pays, la Chine entre autres, hein, qui a besoin d'un accès sur l'océan Indien, comme ils ont fait d'ailleurs aussi au Pakistan. Hein. Donc, ils essayent de contourner, les Chinois essayent de contourner évidemment le détroit de Malacca. Donc, la situation est quand même très instable pour le pays.
Est-ce que vous avez une idée sur l'issue du conflit ? Est-ce que vos amis qui se battent donc actuellement contre la junte communiste actuelle qui est au pouvoir, est-ce que vous pensez que cette rébellion peut aboutir et à terme renverser la junte militaire ?
Alors, ils ne sont plus, le régime birman n'est plus communiste, ou il ne se revendique plus du socialisme. C'est la caste militaire qui domine. Alors, maintenant... Est-ce qu'ils vont gagner ? c'est pas si évident de ça que de pouvoir le prédire. Il y a une forte pression, en effet, qui est faite contre eux, aussi bien du côté Kachin que du côté Arakanis ou du côté Karen. Mais aussi c'est un conflit qui peut s'enterrer, hein, chacun peut rester sur des positions et qui peuvent durer très longtemps. C'est un conflit qui date déjà quasiment de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est toujours pas arrêté. Donc des moments où on bascule dans les conflits ethniques, ça peut durer très longtemps.
Merci beaucoup, Aymeric Vallois, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes l'auteur d'Action clandestine, la lutte anticommuniste en Asie du Sud-Est. Vous livrez un témoignage poignant sur ces quelques années où vous êtes battu aux côtés du peuple Karen. Et nous, amis auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager largement ce podcast. N'oubliez pas que les missions étrangères de Paris vous attendent pour vous faire découvrir leur mission à travers l'exposition Lego et notamment ce magnifique pays qui est la Birmanie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis auditeurs. Que la paix soit avec vous.